Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de la vie quotidienne que beaucoup d'entre nous connaissent, se déplacer pour le travail, les courses, les loisirs, les démarches, quand on n'a que peu de moyens financiers et pas de moyens de transport collectif adéquats, adaptés, les déplacements, c'est compliqué, c'est difficile. Mon invité a conçu et mis en place une solution à ce problème, un dispositif aisément accessible, il va nous en parler. Laurent Cobos, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous allez donc nous parler de Oxy Innov ESS, je raconterai ce que c'est tout à l'heure. Donc, vous avez un parcours de cadre dans le commerce et dans l'industrie, mais vous avez créé successivement deux entreprises. Fin 2020, vous avez créé Oxy Mobilité, son activité, un peu voisine de celle dont on parlait, mais tournée vers les entreprises et la collectivité, avec les équipements et les services liés aux mobilités. En janvier dernier, vous avez lancé Oxy Innov ESS, je décode, Oxy comme Occitanie, Innov comme innovation, on en parlera, et enfin ESS parce que vous êtes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et cette caractéristique, bien sûr, apparaîtra dans ce que vous allez nous raconter. Avant que vous parliez de vos activités, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour, d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, première question, quels sont les lieux à Montpellier, où vous y habitez depuis une quinzaine d'années, m'avez-vous dit, que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez à vos amis de passage?
Ben, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, effectivement, je ne suis pas natif de Montpellier, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années, donc j'ai eu le temps de découvrir un peu l'ensemble de la ville, et c'est vrai que bon, je ne vais pas être très très original, et le cœur de ville historique est particulièrement intéressant, avec ses commerces, ses rues et ses façades d'époque, mais voilà, c'est un endroit où j'aime aller me balader, traîner dans les commerces et manger dans les restaurants, mais il y a un deuxième endroit où je vais un peu plus souvent, qui est, alors pas dans Montpellier, mais qui est sur la bordure de Montpellier, qui est plutôt la partie littorale de Montpellier, où là j'y vais beaucoup plus fréquemment parce que moi... Pardon ?
De quel côté ?
Peu importe, on a que le choix. Il y a du côté de Palavas, il y a le... Comment ça s'appelle ? On verra après. Voilà, mais en fait, voilà, toute la partie des plages et surtout des étangs où on peut randonner, faire du vélo, se ressourcer, et puis on a la chance d'habiter dans une belle région avec un beau temps et des couleurs en plus. Là, c'est le mois de... C'est l'automne, donc c'est fantastique.
Alors, deuxième question, là, je vous interrogeais un peu comme promeneur. Là, c'est un peu comme habitant et peut-être comme citoyen. Quel jugement portez-vous sur les profonds changements que Montpellier a connus avec sa croissance démographique, son expansion urbanistique et d'autres mutations?
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Montpellier est une grande métropole aujourd'hui. Elle est comme d'autres métropoles aujourd'hui en France, en train d'évoluer. Ben voilà, il y a des points et des aspects positifs et négatifs. Et on a quand même pas mal de services qui sont à disposition de toute la ville. Bon, après, ben voilà, on a des gros problèmes de circulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Montpelliérains pourront constater, c'est très difficile de se placer en voiture d'un point A à un point B avec l'ensemble des travaux.
Avec la fin des travaux, ça ira mieux.
Voilà,
10 décembre.
Voilà, apparemment, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Donc voilà, ça a été une période un peu compliquée. Mais bon, voilà, moi, je suis très, très heureux d'habiter à Montpellier. Voilà, c'est une ville qui est très, très agréable à y vivre et à y travailler aussi.
Je me disais, on ne l'a pas évoqué en préparant l'émission, que ce que vous faites, c'est quand même un élément constitutif, certes modeste, dans l'offre, la diversification de l'offre de mobilité à Montpellier, pour le coup.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui...
Y compris dans ma... Je vous coupe. En ce que cette offre, elle produit une amélioration de l'offre, mais elle a ses limites. Des limites sur lesquelles vous pouvez être amené à intervenir.
Voilà, on aura pu le remarquer. Les modes de déplacement aujourd'hui sont multiples. Hein. Il existe toujours la voiture, les transports en commun. C'est développé depuis ces dernières années, beaucoup de déplacements en vélo, en scooter et autres solutions. Et donc, c'est vrai que voilà, nous, on intervient sur cette partie de la mobilité durable qui permet de se déplacer d'un point A à un point B sur une périphérie, sur des territoires ruraux aussi, à travers des outils qui permettent de limiter un peu la pollution et de faire un peu aussi de l'exercice au quotidien, quoi.
Alors, on va en parler d'un lien plus précis de vos activités. Quelle est l'analyse que vous avez faite sur des besoins, en vous disant qu'une partie au moins de ces besoins pouvait être satisfaite si ce n'est étude de marché, du moins une connaissance d'attente, hein, pas nécessairement formulée, auquel vous avez décidé de vous consacrer.
C'est simple, hein. Aujourd'hui, il y a 30% de la population qui rencontre quotidiennement des problématiques pour se déplacer, alors comme je le disais, sur des territoires urbains ou sur des territoires reculés. Donc la problématique, elle est là, c'est comment on accompagne ces publics alors qu'ils soient en emploi ou qu'ils soient en recherche d'emploi, de façon à pouvoir les accompagner dans une solution de mobilité. Il existe des solutions. Il existe des solutions de location pour des courtes durées, de façon solidaire, sur 2, 3 jours, une semaine, 15 jours, mais ce n'est pas une solution pérenne. Donc nous, on s'est attaqué à ce problème-là. On a découvert qu'il y avait 30% des publics qui sont en retour à l'emploi, qui sont chez France Travail, qui n'ont aucune solution de mobilité, pas de mobilité, pas
C'est
de job.
C'est-à-dire, ils ont un emploi.
Non, ils recherchent un emploi. Ils recherchent un job. Ils recherchent
mais
un job.
Il y a un frein. Qu'il y a une offre de boulot à 20 km, je n'ai pas de transport en commun, qu'est-ce que je fais ?
Voilà, c'est le premier frein au retour à l'emploi aujourd'hui en France, c'est la mobilité. Donc il y a 30% des publics qui sont chez France Travail qui n'ont aucune solution de mobilité, qui ne peuvent pas acter un contrat de travail parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et là où ça devient quand même de plus en plus grave, c'est que, alors les études donnent à peu près les mêmes chiffres, il y a entre 15 et 18% de la population active qui travaille tous les jours, qui ont des problèmes pour se déplacer.
Bon, c'est des chiffres relatifs à la métropole de Montpellier.
Ça c'est au niveau national. Ça c'est des chiffres.
On peut penser que c'est à peu près la même chose ici.
On peut le ramener sur le département de l'Hérault sur les mêmes quantités, quoi.
Alors, dans les contacts que vous avez eus, dans les dossiers que vous avez traités, on va en parler bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure, d'autres situations, une espèce de petite typologie de personnes dont la situation, le lieu d'habitation, les activités font qu'ils rencontrent ces difficultés de déplacement?
Alors nous, on s'est attaqué à deux cibles en particulier. Une première cible, ce sont toutes les personnes qui sont dans ce retour à l'emploi proactif, qui recherchent vraiment un emploi et qui ont cette problématique de la mobilité et qui, à cause de ce problème de mobilité, ne peuvent pas signer un contrat de travail. Donc ça, c'est notre première cible de bénéficiaires. Et puis, il y a la deuxième cible qui sont tous les gens qui travaillent tous les jours, qui doivent se déplacer et qui, pour des questions pécuniaires ou autres, ont cassé la voiture et ne peuvent pas s'en payer une autre, n'ont pas un arrêt de bus au pied de la maison parce qu'ils habitent derrière la colline. Donc voilà, chaque fois c'est des cas particuliers, mais si vous voulez, voilà, il y a deux types de bénéficiaires. Ce sont premièrement les gens qui sont en retour à l'emploi qui ont besoin d'une solution, et puis des gens qui sont en emploi et qui ont besoin aussi d'une solution.
Alors on va regarder de plus près ce que vous faites, et peut-être de manière générale, puis on détaillera. Que proposez-vous et qu'est-ce que c'est ce pack que vous appelez Click et Go ou Click and Go ? Quelles en sont les grandes caractéristiques ? Et puis on va les analyser de manière plus fine ensuite.
L'idée qu'on a essayé de construire et qu'on est en train de déployer, c'est comment aujourd'hui, quand on n'a pas des 100 et des 1000 pour acheter un vélo, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'un vélo à minima c'est entre 2000 et 2500 euros en entrée de gamme. Hein. Donc quand vous êtes.
Surtout depuis que l'aide apportée par la métropole a pris fin après avoir été successivement prolongée. là, c'est fini.
Bon, les transports sont gratuits, donc, voilà. Donc ça compense un peu. Mais voilà, donc aujourd'hui, budgétairement, un budget de 2 000 à 2 500 euros pour un vélo en entrée de gamme, c'est un sacré budget pour une personne qui est soit sans emploi, soit dans un emploi précaire. Donc nous, la solution qu'on souhaitait créer, c'était apporter une solution qui soit abordable financièrement et qui puisse inclure à la fois du matériel et du service de façon à ce que la personne soit autonome et indépendante tout de suite. C'était l'objectif qu'on a recherché, on y a travaillé puisqu'on a, voilà, on a des relations d'affaires avec des industriels, des assureurs et des banques. Et donc l'idée, c'était de pouvoir regrouper tout ça dans un pack de façon à ce que quand la personne elle peut souscrire, elle puisse devenir tout de suite opérationnelle et mobile.
Alors, vous avez dit autonomie et indépendance, est-ce que ça, à vos yeux, c'est une des caractéristiques principales? Est-ce que c'est presque votre raison d'être, d'accompagner des gens vers une plus grande autonomie?
C'est l'objectif, c'est de l'autonomie et de l'indépendance. Aujourd'hui, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de solutions alternatives, de la location et autres, des mises à disposition. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est apporter de l'autonomie pour que la personne soit tout de suite indépendante dans son mode de déplacement et qu'elle puisse... Ben voilà, de trouver un job, se déplacer chez le pharmacien, aller voir sa famille qui habite à 800 mètres de chez... Bon, voilà, de l'autonomie et de l'indépendance de mobilité.
Très bien. Alors, donc vous avez réfléchi à ça, pris des contacts, et de quels appuis vous avez pu bénéficier, en tout cas les principaux, pour démarrer cette activité en partant de zéro en définitive, si ce n'est quand même votre activité voisine dont j'ai parlé, là, en direction des entreprises et des collectivités.
Ah, il est vrai que cette première activité nous a simplifié la démarche. On avait déjà tous les contacts au niveau industriel chez les fabricants de vélos, les distributeurs, les assurances, on les connaissait. Donc voilà. Donc ça a simplifié un peu la...
Oui, il y a l'espèce d'acquis.
Voilà, la construction du pack a été beaucoup plus simplifiée parce que on avait tous les éléments sous la main. La difficulté qu'on a rencontrée, enfin la réflexion qu'on a rencontrée, c'était qu'est-ce qu'on met dans ce pack, quel type d'outil on met, quel est l'outil qui est le plus pratique pour une personne qui habite dans un cœur de ville ou juste en périphérie, qu'elle puisse aussi utiliser les transports en commun si elle est en vélo et qu'elle puisse le plier pour se rabattre. Bon voilà, donc ça, on a mené une réflexion là-dessus, c'est quel est l'outil idéal pour pouvoir se déplacer au cœur d'une ville ou sur un territoire rural, de façon éventuellement, quand le temps ne s'y prête pas, ou alors quand on crève, d'avoir une solution de repli. Donc voilà.
Donc c'est bien la mise au point du pack, le package, on n'a pas le choix, il faut employer ce mot, qui a été déterminante pour coller aux besoins, en définitive.
Tout à fait.
Et pour arriver à des coûts aussi bas que possible.
Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que cette solution soit abordable financièrement pour ce type de public-là et qu'elle puisse avoir une solution pratique, simple, à utiliser tous les jours.
Alors, on va quand même décrire les grandes lignes, les cartes de ce pack, pour satisfaire la curiosité des auditeurs que je sens poindre. Alors, voilà. En quelques mots, il y a deux packs, deux formules.
Alors, voilà, à ce jour, on a deux packs. Comme je l'ai précisé, on a souhaité intégrer dedans un outil de mobilité. On a souhaité intégrer un outil réglementaire, une assurance. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui roulent sans assurance en voiture.
Pour les cyclistes, c'est clair.
Nous, on a voulu l'intégrer là-dedans, comme ça, il n'y a pas de débat. Et un élément sécuritaire, un casque. Donc, on a ces trois éléments.
Aussi, le port du casque n'est pas obligatoire pour les cyclistes, sauf pour les jeunes enfants.
Mais il est fortement conseillé dans toutes les situations. Il est normal de porter son casque. Donc voilà, le pack était constitué. Un VAE, un vélo assistance électrique pliable.
Ça permet de rentrer dans les trams, puisque les vélos non pliables n'y sont pas autorisés.
Et ça permet surtout, quand on habite dans une résidence, le soir, de pouvoir le plier, le mettre dans son ascenseur et de le sécuriser dans son appartement. C'est quand même un détail qui pèse. Donc voilà, on avait constitué ce premier pack avec un VAE pliable, une assurance tout risque qui couvre à la fois l'utilisateur et le matériel, le vol et l'incendie et autres, et le casque. Et ensuite, on a glissé, on a repris ce pack-là et on en a fait un second, avec là une solution un peu plus motorisée, avec un deuxième pack, avec un scooter électrique 50 cm cube, la même assurance qui couvre à la fois le matériel et l'utilisateur, et le casque. Voilà.
Alors, comment, on va essayer de regarder les étapes successives, par quelle voie accède-t-on à vos services, à vos prestations? Quels sont les chemins qui sont pris pour que vous ayez des bons dossiers et satisfaire donc un certain nombre de personnes.
Ben, cette partie-là est la plus chronophage, c'est la plus dure et la plus compliquée, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'adresser à toute la France individuellement, et donc on est obligé de passer par des prescripteurs qui, eux, sont au contact tous les jours, ben, soit des demandeurs d'emploi, soit d'un salarié, et donc qui ont besoin aussi d'avoir des solutions pour pouvoir répondre à ces problématiques de mobilité qu'ils rencontrent chez les gens qu'ils accueillent ou dans leur structure ou dans leur association. Donc on a aujourd'hui quasiment un réseau national sur l'ensemble des départements de France où on a des interlocuteurs qui sont confrontés tous les jours à des publics qui ont des besoins de mobilité, et ces prescripteurs-là connaissent aujourd'hui notre solution et nous orientent directement les bénéficiaires, et on les accompagne dans la construction de leur parcours, dans la mise en place de leur service, dans la livraison et tout et tout.
Il y a France Travail, notamment.
Alors, oui, notamment.
Qui est quand même l'endroit où,
oui, bien sûr,
il y a des contacts avec des gens en recherche d'emploi.
Oui, bien sûr, il y a France Travail, mais bon, bien entendu, il y a France Travail, mais il n'y a pas que France Travail, parce qu'aujourd'hui, il y a une coriole d'associations et de structures en France qui accompagnent en parallèle, voilà, le travail de France Travail. Et donc, voilà, on est sur de nombreuses associations qui accompagnent tous ces publics, des associations d'insertion, des fédérations, qui connaissent aujourd'hui notre dispositif suite à une formation qu'on leur a faite et qui oriente les dossiers chez nous.
Alors, ceci dit, on comprend que c'est le système que vous avez mis en place pour que ça soit gérable, mais est-ce qu'il est possible de vous solliciter directement ?
Ah oui, tout à fait, bien entendu. Alors, l'intérêt, bien sûr, on peut solliciter directement Oxyinnov à travers, voilà, notre site internet et les adresses mail ou le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. L'intérêt pour nous et l'objectif, c'est de finaliser le dossier. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand la personne est vraiment accompagnée, qu'elle a eu déjà un premier parcours et qu'elle est accompagnée par une structure qui est spécialisée dans le retour à l'emploi, l'information est fraîche, disponible, et on a d'autant plus de chances de pouvoir le...
Oui, c'est-à-dire que cette personne, elle est mieux à même de présenter un dossier solide, en effet, c'est ça, parce qu'elle est déjà dans une démarche d'accompagnement par un tiers.
Tout à fait.
D'accord. Voilà.
Donc, mais bien évidemment, elle peut nous solliciter pour qu'on puisse l'accompagner directement sur.
Vous donnez les coordonnées, je vous les redemanderai à la fin de l'émission.
Vous avez toutes les informations sur www.oxy-innoves.fr. Notre adresse email, c'est oxy.innoves@gmail.com, et le numéro de téléphone, c'est le 04 99 62 24 28.
Très bien. Alors, quelles sont les informations, les documents que le demandeur doit fournir là, pour que le dossier suive une bonne voie ?
Alors, il y a deux types de dossiers. Il y a le dossier pour le demandeur d'emploi qui est lié directement à un retour à l'emploi très prochain. C'est-à-dire que ce dossier est financé via un partenaire solidaire, financier, qui est la Caisse d'épargne via Parcours Confiance. Donc, ce dossier est présenté sous la forme classique d'un dossier où il faut 6-7 documents administratifs concernant la personne. Il se fait à travers un microcrédit social avec très peu d'intérêt, il n'y a pas d'avance de fonds.
Voilà. Donc, ça c'est décisif, c'est-à-dire pour consolider financièrement le dossier,
oui,
pour s'assurer qu'il n'y a pas de pépins en route. Hein. Donc il y a derrière quand même un organisme de crédit, une filiale de la... à vocation solidaire de la Caisse d'épargne qui intervient, là, toujours, pour le coup, un rôle décisif.
Voilà, tous les dossiers sont financés via ce système-là, où nous, on présente notre dossier une fois qu'on l'a reçu et où le dossier a été checké. Et donc, ça permet d'obtenir un microcrédit social dans des conditions vraiment particulières qui facilitent l'acquisition d'un outil de mobilité pour payer la caution de son appartement. Ça a plusieurs vocations. Et l'avantage, c'est que c'est un coût mensuel, et on a essayé de diminuer, de ramener le plus possible ce coût à quelque chose d'abordable. Donc, sur le premier pack, sur le VAE, on est à 3 euros par jour sur 24 mois.
Par mois.
Non,
par jour, par jour.
Voilà,
c'est ça,
3
par
jour. Euros. On le ramène à la journée, comme ça,
c'est plus clair.
C'est plus clair, et puis on se dit, tiens.
Mais du coup, est-ce que c'est modulable ? C'est-à-dire, j'utilise ce vélo 10 jours par mois, et je ne paye que 3 fois 10 jours, ou 3 fois 10, 30. Non, c'est pas ça.
Non. Notre solution, c'est une solution d'acquisition. C'est une solution propriétaire. Donc, à partir du moment où vous avez enclenché ce dossier, que vous avez l'acceptation du financement solidaire, vous percevez recevez votre PAC où que vous habitiez en France et vous êtes propriétaire de votre solution.
Donc, ce n'est pas une location. Ce n'est pas une location, c'est un achat.
C'est une acquisition sous une forme d'un microcrédit qui permet d'échelonner ces paiements sur 24-36 mois et d'avoir un coût faible à la journée. On l'a ramené à la journée, comme ça les gens comprennent bien. Quand on sait qu'un ticket de bus, ça vaut 1,90€, et bien pour 3 euros, vous êtes propriétaire tous les jours de votre vélo. Donc, on est sur 3 euros par jour sur le VAE sur 24 mois, et on est à partir de 4 euros sur le scooter sur 36 mois. Et là, la personne est propriétaire de son outil, elle l'utilise le matin, le soir, qu'elle le veut, elle est propriétaire de son outil.
D'accord, il n'y a pas de restriction.
Non.
Et est-ce qu'il y a des conditions de ressources qui font partie des critères d'attribution de cet appui?
Alors, il n'y a pas de conditions d'attribution, il y a des conditions à demain. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, on finance régulièrement des personnes qui sont au RSA, qui touchent 750 ou 800 euros, mais qui ont la possibilité de signer un contrat de travail la semaine prochaine. Elles n'ont pas de solution de mobilité pour pouvoir signer ce contrat de travail. Nous, on intervient en disant, mais voilà, aujourd'hui, auprès de la Caisse d'épargne, cette personne, elle est dans cette situation à l'instant T. Demain matin, elle a un job, elle a un contrat. Et là, le financement est tout à fait possible. Ça ne pose pas de problème.
Si la capacité d'avoir un mode de déplacement facile lui permet de prendre le job.
Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'a besoin la banque, comme tout organisme bancaire, même si aujourd'hui cet organisme a vocation solidaire, ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur les prochains mois et de savoir que cette personne aujourd'hui, à l'instant T, est au RSA, mais demain matin, elle va être salariée. Voilà, elle va avoir un pouvoir d'achat qui va être différent et augmenté, et le peu de charges que représente l'acquisition, même sur plusieurs mois, est complètement compatible avec ça. Donc, c'est accepté. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, alors le prérequis, si on peut appeler ça un prérequis, il faut vraiment être dans un retour à l'emploi proactif, pouvoir aussi...
Oui, ça, j'utilise pas ce système pour aller à la pêche.
Non, c'est pas la peine d'essayer.
En tout cas, tous les jours de la semaine, voilà, et pas le week-end. Peux utiliser le vélo le week-end ou le scooter, mais
voilà.
D'accord.
Voilà, s'il y a un prérequis quand on est dans cette situation-là, c'est d'être vraiment dans une solution de retour à l'emploi proactif, de pouvoir le justifier, parce qu'il faut pouvoir le justifier. Voilà. Et puis si justifié, il n'y a pas de refus, généralement.
Alors, vous m'avez dit avoir traité 150 dossiers. Alors, vous m'avez dit qu'il y en avait un petit nombre. Alors, c'est des dossiers qui ont été écartés au départ, et ensuite qui ont été écartés ensuite avec le regard de la Caisse d'épargne.
Oui, tous les dossiers, toutes les vies sont différentes. La gestion d'un compte bancaire est différente d'une personne à l'autre. Alors bon, voilà, il y a des gens qui rentrent dans le cadre et puis finalement, quand l'étude est faite, c'est pas la bonne période. Bon, voilà, donc aujourd'hui, quasiment, on a un dossier et demi sur trois qui est validé pour X raisons. Mais ça ne veut pas dire que le dossier qui est refusé aujourd'hui le sera demain matin.
Oui, si la situation de la personne évolue favorablement.
Bien sûr. D'accord. Alors, notamment la situation financière. Quand on est dans des périodes de précarité sociale, on rencontre pas mal de soucis. Donc, on peut avoir quelques mois où la difficulté est beaucoup plus importante. Et puis, les mois qui suivent sont moins importants. Donc là, on peut refaire l'étude et avoir de l'acceptation du dossier dans le deuxième cas.
D'accord. Alors, ceci dit, est-ce que vous avez constaté, là, avec la dizaine de mois de recul que vous avez sur cette offre, des freins ou des sources de petites difficultés qui pourraient être levées pour fluidifier, le traitement des dossiers et la bonne fin des demandes?
Notre offre chez Oxy Innov est assez innovante. Elle part sur de l'acquisition. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans nos mentalités. Donc c'est vrai que la compréhension de l'offre chez nos prescripteurs a été un peu particulière. Mais une fois qu'ils ont capté, qu'ils ont compris le système, elle est applicable très rapidement. Donc on est confronté à ce laps de temps.
Bon, c'est la question récurrente du changement, quoi. C'est l'appropriation par vos partenaires du système et des bénéfices qu'il apporte.
Oui. C'est une offre alternative qui vient complémenter les offres qu'ont tous ces prescripteurs. Elle est différente et elle permet de l'autonomie et de l'indépendance dessus. Alors, elle est un poil compliquée parce qu'elle associe à la fois du matériel, des services et du financement solidaire. Mais une fois qu'on l'a comprise, nos prescripteurs orientent rapidement, d'autant qu'il y a des besoins.
Les besoins sont énormes.
Énormes.
Alors, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, opération, offre innovante. Cela signifie-t-il qu'à ce jour, vous n'avez pas de concurrent à Montpellier ou ailleurs dans la même offre, des besoins de déplacement pour des personnes, notamment en recherche d'emploi, et un paquet avec un véhicule, une assurance et un casque? Personne n'a eu cette idée?
À
votre connaissance,
nous sommes le 21 ou 22 octobre. à ce jour, non, on n'a pas d'offre. Alors, concurrente, c'est entre parenthèses, qui serait identique à la nôtre. Je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Mais pour l'instant, on a créé cette innovation sociale. C'est pour ça qu'on a créé cette association de l'économie solidaire et sociale, parce que c'est de l'innovation sociale. Et donc, nous, pour vous parler franchement, non, il n'y a pas d'offre comparative à la nôtre. On a 12 mois d'exercice là-dessus. Ces 12 mois, on va les garder tout le temps en avance par rapport peut-être à la concurrence, et ça va nous permettre de venir complémenter nos offres. J'espère qu'on a toujours une case d'avance sur nos copains.
Et donc, la question qui vient naturellement, est-ce que cet acquis, ces premiers mois, vous donnent la capacité ou l'envie de développer la formule?
C'est l'objectif d'OxyInnov, c'est aujourd'hui d'arriver à construire une structure à vocation sociale, comme une entreprise, parce qu'une association, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise, avec des services, et on est en train, notamment grâce à deux gros projets qui arrivent à commencer à organiser tout cela. Mais bien entendu, l'objectif, c'est de faire grossir l'association, d'une part pour pouvoir répondre à la totalité des demandes qui va arriver, parce qu'elle va arriver en nombre, et puis aussi pour avoir des spécialistes un peu de ce métier chez nous, en interne.
De renforcer l'équipe.
Donc,
l'équipe, c'est à ce jour, c'est structure légère. Un salarié, vous-même.
Et quatre bénévoles.
Ce qui explique, j'imagine, le faible coût des prestations. La structure peut être difficilement plus légère. D'accord. Et alors, à quel type de développement songez-vous? Parce que vous êtes implanté à Montpellier, ça veut dire ouvrir des filiales ou des succursales à Lyon, à Bordeaux ou à Toulouse?
Non. Alors, les modifications qu'on va mener sur l'organisation d'OxyInnov n'est pas sur des points de vente sur chaque ville. On a la possibilité aujourd'hui de traiter toutes les demandes à partir de Montpellier. Donc on a des projets, on va venir alimenter de nouveaux packs. On va se retrouver très rapidement courant début premier trimestre 2026 avec deux nouveaux packs, un deuxième pack avec un VTT électrique pour répondre à des besoins de déplacement intensif
VAE électrique, vous dites.
Alors, VTT. VTT.
C'est un vélo plus performant.
Plus performant avec des autonomies, avec une autonomie, une capacité d'autonomie électrique.
Pour les gens qui font des déplacements.
Très réguliers, très intensifs tous les jours. Ouais. Les gens qui livrent du courrier, les gens qui livrent des repas ont besoin. Donc on a des demandes là-dessus qu'on a identifiées. On sort le pack d'ici le courant de l'année, de la fin de l'année. Et puis, tout début d'année, on est en train de boucler le dossier, une solution sur quatre roues électriques. Avec ou sans permis, et là ça répondra aux gens qui ont toujours besoin de se déplacer dans une voiture. On proposera une voiture électrique à petit prix aussi.
Alors on arrive à la fin de cette émission, monsieur Cobos. Quelle est l'idée reçue ou la méprise des gens que vous rencontrez quand vous efforcez d'être convaincant, et comment corrigez-vous cette compréhension insuffisante? Est-ce que c'est par exemple le revers de l'innovation? Les gens ne connaissent pas ce système et ils peuvent avoir des difficultés à le comprendre.
Alors c'est pas un revers, il faut faire preuve un peu de pédagogie, expliquer clairement les choses. La solution, et c'est vrai, elle est innovante pour un certain temps, et elle associe du matériel, des services et du financement. Donc dans l'explication de notre dispositif auprès des prescripteurs, mais aussi auprès des bénéficiaires, il faut qu'on soit très pédagogue en leur expliquant que ce dossier-là, Mobilia est un dossier d'acquisition, je suis propriétaire de ma solution de mobilité, mais je vais avoir un remboursement de mes paiements qui va être fait sur 24 ou 36 mois, et donc voilà, la difficulté elle est là.
Vous avez une formule de webinaire notamment pour expliquer la formule.
Tout à fait. Nos prescripteurs sont systématiquement conviés à un webinaire de formation pendant 40-45 minutes où là on déploie complètement la solution, on explique les tenants et les aboutissants. À la sortie de ce webinaire, ils reçoivent une formation format numérique et ils reçoivent un dossier prescripteur où dans ce dossier il y a tout le process de mise en place du dispositif avec la fiche de contact, avec un diagnostic de mobilité.
Un accompagnement complet.
Il retourne l'ensemble des documents chez OxyInnova et le dossier est activé. Quoi.
Très bien. Mais écoutez, alors je vais vous demander de rappeler les coordonnées pour ceux des auditeurs qui seraient intéressés, eux-mêmes ou leurs proches.
Alors, vous aurez tous les renseignements sur oxy-innoves.fr, oxyinnoves.fr. Notre adresse mail, c'est oxy.innoves@gmail.com. Et le téléphone, c'est le 04 99 62 24 28. On est à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.
Laurent Cobos, merci. Bon vent à vous.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saroc.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.